Mon papa pirate, une histoire de David Cally, illustrée par Mauricio Carello, aux éditions Sarbacane. Quand j'étais petit, mon papa n'était jamais à la maison. Il ne revenait qu'une fois par an chez nous en Italie, pour les vacances d'été. Il sentait la mer, mon papa, parce que c'était un pirate, un grand pirate. À peine arrivé, il me prenait sur ses genoux. Il déroulait une grande carte qui sentait la poussière et me montrait un par un tous les endroits où il était allé. Et chaque fois, il me racontait comment lui et sa bande avaient attaqué là un navire épargnant la vie de l'équipage en échange de tous ses trésors. Mais à la maison, on n'en voyait jamais la couleur de ses trésors. Je lui demandais parfois « Papa, pourquoi tu n'en rapportes pas un peu à la maison ?» Et là, il se mettait à rire. « Parce que tout est en lieu sûr, dans un coin que seul le tatoué et moi connaissons. Voilà pourquoi. » Mon père, il avait tout un équipage et je connaissais le nom de chacun de ses hommes. Il y avait le tatoué, qui était en effet couvert de tatouages et ne disait jamais un mot. Centime, le perroquet qui parlait pour lui. Un dénommé Cigario, bon cuisinier, qui racontait des histoires de fantômes à vous donner la chair de poule. Le barbu, qui, d'après la légende, portait déjà la barbe à sa naissance. Rikiki, qui avait la taille d'un enfant, mais n'avait peur de rien. Et aussi Figaro, l'ancien coiffeur qui jouait de l'accordéon et pleurait comme un bébé les nuits de pleine lune. Le Turc, un géant à la force incroyable, il avait combattu un espadon à main nue et en portait encore les cicatrices. Capable aussi d'une étonnante délicatesse, c'est lui qui raccommodait les voiles déchirées par les tempêtes. Bourrasque, célèbre pour ses vents nocturnes pétaradants. Et enfin Saucisse, qui sentait la cantine et qui, les nuits d'orage, dévorait la charcuterie grasse et piquante que lui envoyait sa sœur restée au pays. Comme chaque année, mon papa me rapportait un cadeau. Pour mes 7 ans, il m'avait offert un drapeau de pirate spécialement cousu pour moi par le Turc. Le soir, je lui demandais de me parler de ses amis pirates et je m'endormais en écoutant siffler sa respiration tandis qu'il me racontait l'histoire du tatoué qui avait trouvé une fiancée mais elle exigeait qu'il efface tous ses tatouages, celle de Cigario qui avait vu un fantôme sur le pont et s'était aperçu ensuite que ce n'était qu'un chiffon, celle du barbu à qui ils avaient coupé la barbe pendant la nuit et le matin suivant elle avait déjà repoussé, de Rikiki qui avait rencontré le diable et lui avait demandé s'il n'avait pas 100 balles pour lui, de Figaro qui avait raté la coupe de cheveux du fils du roi et avait dû s'enfuir à toutes jambes. Et aussi l'histoire du Turc qui, sur un pari, avait englouti une langouste avec sa carapace, de Bourrasque qui avait été voir une magicienne pour qu'elle le guérisse de ses vents nocturnes mais elle lui avait répondu qu'elle ne faisait pas de miracle, de Saucisse à qui un chat avait mangé ses saucisses et qui avait mangé le chat, de Centime qui s'appelait comme ça parce que le tatoué disait « Si j'avais gagné un centime à chaque fois qu'il m'a jacassé aux oreilles, celui-là, je serais riche comme Crésus. » Et enfin, il me racontait l'histoire de son navire, qui s'appelait l'Espoir. Et chaque fois, je demandais « L'espoir de quoi ?» Il me répondait « L'espoir de rentrer à la maison. » L'année de mes 9 ans, mon papa n'est pas revenu. Un matin, un télégramme est arrivé. Après l'avoir lu, ma mère a simplement dit « On part en voyage. Où est-ce qu'on va ? Voir papa. » Je pensais qu'on allait voyager en bateau, mais on a pris le train. Maman n'a presque pas parlé durant le voyage. De temps en temps, je regardais par leur fenêtre dans l'espoir de voir la mer. La seconde nuit, j'ai demandé si papa était encore loin. Maman m'a répondu que je le verrais le lendemain matin. Alors, je me suis endormie, sûre de me réveiller face à la mer. Même si maman ne me disait rien, je sentais bien qu'il était arrivé quelque chose à papa. Mais quoi ? Peut-être que son navire avait sombré ? J'ai dormi d'un sommeil agité de rêve toute la nuit. Quand j'ai ouvert les yeux, il faisait toujours noir. Nous étions à l'arrêt. La police contrôlait les papiers compartiment par compartiment. Le voyage a duré de longues heures encore. Lorsqu'enfin nous sommes descendus du train, il n'y avait pas la mer. Juste un nouveau pays, qui s'appelait la Belgique. Quelquefois dans nos rêves, on voit des choses avant qu'elles arrivent. Ou bien on voit ce qui est en train d'arriver à ceux qu'on aime. Désormais, j'en étais sûre. Mon papa était mort. Aussi, quand à l'hôpital on m'a demandé si je voulais le voir, j'ai répondu non. Parce que j'avais peur des morts. Maman a posé une main sur mon épaule et m'a poussée en avant. Les jambes en coton, je suis entrée dans la chambre. Mon papa n'était pas mort. Dans la voiture, plus tard, j'ai entendu parler de galeries et d'effondrements. Mais le sens des mots m'échappait. Je n'avais aucune idée de l'endroit où nous emmenait. J'ai demandé à maman. Elle m'a répondu simplement « Tu verras bien ». Une dame nous a conduits dans une chambre à deux lits. Maman m'a alors expliqué « C'est ici que ton papa travaille. Ou plutôt, pas loin d'ici. Dans une mine. Avec beaucoup d'autres, il descend à des centaines de mètres sous terre pour aller chercher du charbon. Il y a 3 jours, des galeries se sont effondrées. Ton papa était au fond et il a été blessé. Mais heureusement, il s'en est sorti vivant. D'autres n'ont pas eu cette chance. » Je n'oublierai jamais cette journée. J'avais retrouvé mon papa vivant, alors que je le croyais mort. Mais surtout, ce jour-là, d'un seul coup, j'ai cessé d'être un enfant. Le lendemain matin, mon père était réveillé. Je me suis rapprochée et j'ai eu l'impression de me trouver face à un inconnu. Il m'avait raconté tant de mensonges. Jamais il n'avait été pirate et jamais il n'avait eu un bateau baptisé l'Espoir. Pas plus que de trésors cachés ni de combats contre les requins. Mon papa pirate était mort pour de bon. J'avais devant moi un autre papa. Un papa courageux qui creusait des galeries, dans le noir et presque sans air. Mais qui m'avait tellement menti. Je ne savais pas si je l'aimerais aussi. Dans l'après-midi, on nous a emmenés à la mine. Un homme barbu nous a accompagnés jusqu'au baraquement de mon père. Il faisait sombre à l'intérieur, mais je reconnus les photos accrochées au mur. Dehors, les mineurs nous attendaient. Juste au moment de partir, j'ai aperçu sous la chemise de l'un d'eux un énorme tatouage vert. Nous sommes retournés à la maison et un mois plus tard, mon père nous a rejoints. Après ce qu'il s'était passé, il n'est plus jamais reparti. Et je l'ai aimé comme avant. Mais durant des années, je n'ai pas compris la raison de ses mensonges. Nous n'avons plus parlé de la mine jusqu'au jour où la lettre est arrivée. Ce soir-là, il est descendu à la cave et il est resté un long moment. À l'heure du dîner, maman m'a envoyé le chercher. Il fixait le contenu d'une grande valise. Son casque, sa lampe de mineur, et aussi un objet étrange. « Qu'est-ce que c'est ?» j'ai demandé. « Un sextant, » a dit mon père. « Ça sert à s'orienter en mer d'après la position des étoiles. Quand j'étais jeune, je rêvais de devenir marin. Mais il n'y avait pas de port là où je suis né. Il n'y avait même pas de travail. Alors j'ai entendu dire qu'on cherchait des hommes loin, très loin de chez moi. J'ai cru ma chance arriver. Je rêvais depuis si longtemps de découvrir le monde. Mais là où on m'a embauché, il n'y avait ni navire, ni mer à explorer. C'est un grec qui m'a offert ce sextant. Lui aussi avait quitté son pays pour travailler à la mine. Et tu sais quoi? Il était d'une famille de marins, mais il souffrait du mal de mer. C'est seulement ce soir-là que j'ai commencé à comprendre. Mon père ne m'avait pas vraiment menti. Il avait toujours rêvé de parcourir les océans. Et surtout, qu'en imagination, il avait voyagé sur toutes les mers du globe. Il était marin dans l'âme. Il rêvait pour oublier que, lorsqu'il descendait sous terre, il risquait à tout moment d'y rester. La lettre contenait une nouvelle incroyable. La mine fermait. Dans cette mine où mon père avait failli être enterré vivant, les mineurs avaient continué à travailler malgré le danger. Mais à force, il n'y avait plus assez de charbon. C'est un de ses anciens camarades qui avait envoyé la lettre. Les équipiers de mon père s'étaient donné rendez-vous pour un dernier adieu à leur lieu de travail et ils comptaient sur sa venue. Nous n'étions jamais retournés en Belgique. Le voyage m'a semblé moins long, mais comme la première fois, personne n'a parlé ou presque durant tout le trajet. Je m'imaginais que ce serait un moment de fête. Après des années, mon père allait revoir ses anciens compagnons. À la gare, personne ne nous attendait. Nous sommes allés dormir dans un petit hôtel où une dame douce et gentille nous a servi une soupe à l'oignon. Le lendemain matin, devant le portail, ils étaient tous là. Je ne reconnaissais personne, mais sûrement que c'était les mêmes mineurs qui avaient salué ma mère des années auparavant. Une jeune fille nous a fait faire le tour du baraquement. L'intérieur était encore plus sombre que dans mes souvenirs. Je n'ai pas reconnu la baraque où avait dormi mon père, jusqu'au moment où, levant les yeux, j'ai vu une inscription sur le mur que je n'avais pas remarquée à ma première visite. C'était écrit « L'espoir ». Au même instant, dehors, le vent s'est levé et la vieille baraque s'est mise à grincer et craquer de toutes parts, tel un vieux navire. La visite a continué en silence, comme si nous traversions un cimetière. Devant l'entrée de la mine, tous se sont mis à pleurer. Le monstre qui, durant des années, les avait avalés et recrachés était mort, et eux, ils pleuraient. Je ne savais pas s'ils pleuraient ceux qui avaient perdu la vie, ou sur eux-mêmes qui avaient laissé là leur jeunesse. Je les fixais sans comprendre, jusqu'à ce que, sous la chemise entrouverte de l'un d'eux, j'aperçoive le tatouage que j'avais remarqué des années auparavant. Alors, je les ai regardés un par un, et je me suis émerveillée de ne pas les avoir reconnus plus tôt. Ils étaient tous là, le tatoué, Cigario, le Barbie, le Barbu, Rikiki, Figaro, le Turc, Bourrasque, Saucisse, seul manquait Centime. La terrible bande de pirates était réunie au complet, et tous pleuraient comme des enfants devant le navire échoué, le vieux navire avec lequel ils avaient affronté tant de tempêtes, sur cette mer sans horizon qui avait emporté tant des leurs. Ils étaient venus lui dire adieu. Ils ne pouvaient pas le haïr, parce que grâce à lui, ils avaient retrouvé l'espoir de rentrer un jour chez eux. J'ai senti que je devais faire quelque chose. Le soir où était arrivée la lettre, j'avais retrouvé dans la cave le cadeau de mes 7 ans, et au moment de partir, je l'avais mis dans ma valise. Alors, j'ai grimpé en haut d'un pylône. Avant d'accrocher le drapeau, j'ai regardé en bas. J'ai croisé le regard de mon père. Et pour la première fois, depuis de longues années, je l'ai revu tel qu'il était dans mon souvenir. Mon papa pirate, il était là. Il avait toujours été là.